Panium numéro 9, quatrième ligne.
Et le roi du Midi, animé de colère, sortira et combattra contre lui, contre le roi du Nord. Et celui-ci mettra en campagne une grande multitude, mais cette multitude sera livrée entre les mains du roi du Nord. Quand la multitude aura été anéantie, son cœur s'élèvera. Il fera tomber des dizaines de milliers, mais il n'en sera pas affermi. Daniel 11, 12.
Les versets 11 et 12 identifient la victoire de Poutine sur l'Ukraine et l'Union européenne, ainsi que les suites et les répercussions pour Poutine après sa victoire dans la guerre en Ukraine, telles que représentées par Ptolémée dans sa victoire à Raphia en 217 avant Chessie, et sa chute au verset 12. Le thème des versets est l'ascension et la chute du roi du Sud. Jusqu'à présent, les articles ont identifié les thèmes fondamentaux des lignes prophétiques du chapitre 11. Le verset 11 a besoin d'un peu plus de temps avant que nous poursuivions dans le chapitre. Daniel 11, 11 correspond à Apocalypse 11, 11.
Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et il se tint sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les virent. Apocalypse 11, 11.
And Choiseul 26. Les deux témoins qui avaient été tués par la bête qui monte de l'abîme se sont dressés sur leurs pieds. Le témoignage de la corne républicaine avait commencé en 2015 avec l'annonce par Donald Trump de sa candidature à la présidence, et en 2020, le dragon, représenté par les mondialistes dans le monde, et les mondialistes que sont le Parti démocrate, de concert avec les mondialistes du Parti républicain, les Rhinos, ont volé l'élection et installé Joe Biden, mettant ainsi Donald Trump à mort dans la rue. La corne protestante, représentée par le ministère Future for America, a été mise à mort par la propagation d'une prédiction erronée décrivant une attaque de l'islam contre Nashville. En 2023, les cornes républicaines et protestantes ont été ressuscitées. Le verset 11 identifie le début de la guerre en Ukraine à partir de 2014, jusqu'à la victoire ultime de Poutine et de la Russie.
Le verset 11 est l'épreuve visuelle qui culmine par un jugement pour l'adventisme en général, ainsi que pour ceux qui ont accepté la lumière de 9-11 et l'arrivée du troisième malheur. Mais elle s'adresse principalement à ceux qui seront tenus responsables vis-à-vis de la lumière de la prophétie qui a été dévoilée progressivement depuis juillet 2023.
La direction de l'adventisme a été laissée de côté en 1989, comme le typifiait la naissance du Christ dans cette période prophétique. Au baptême du Christ, il commença à appeler les disciples qui étaient le fondement de l'Église chrétienne, typifiant ainsi le 11 septembre, lorsque, avec l'arrivée de l'islam du troisième malheur, le Seigneur a ramené son peuple vers les anciens sentiers de Jérémie, qui représentent les fondements de l'adventisme. Le 11 septembre, le jugement des vivants a commencé par la maison de Dieu, et l'adventisme a rejeté la lumière de l'ange d'Apocalypse 18 aussi certainement que les Juifs ont rejeté Jésus comme Messie. Ceux qui ont accepté la lumière de l'ange d'Apocalypse 18 ont ensuite été éprouvés par la déception du 18 juillet 2020. Et juillet 2023, la lumière de Daniel 11, verset 11, identifie la ligne externe de la vérité présente. Cette lumière d'accomplissement prophétique externe, trouvée au verset 11 de Daniel 11, a été révélée aux vierges ressuscitées au verset 11 du chapitre 11 de l'Apocalypse. L'Apocalypse identifie comme histoire interne l'histoire que Daniel révèle en tant qu'histoire externe.
Ceux qui ont considéré la lumière révélée à partir de juillet 2023 se répartissent en 2 classes distinctes, car certains qui marchaient ensemble après juillet 2023 ne marchent plus ensemble. Le jugement est progressif et à partir du 9.11, il a été accordé à l'Église adventiste du septième jour un temps pour se repentir de son rejet des règles et d'interprétation prophétique adoptées par Miller et ses associés, qu'elle a rejetées progressivement depuis 1863. Du 9.11 jusqu'au 18 juillet 2020, l'Église adventiste du septième jour a reçu sa dernière occasion de se repentir. Et à ce moment-là, ceux qui avaient participé à la proclamation de Nashville de 2020 ont été mis à l'épreuve. En juillet, la phase finale de purification est représentée par les versets 11 des chapitres 11 des livres de Daniel et de l'Apocalypse.
C'est au cours de ce processus de mise à l'épreuve que s'accomplit la deuxième des 3 épreuves. La deuxième épreuve est une épreuve visuelle, précédée par une épreuve de l'appétit et qui se conclut par la 3e épreuve, laquelle, contrairement aux 2 premières, est une épreuve décisive. Lorsque les vierges se réveillent à minuit à l'appel « Voici l'époux qui vient », un groupe possède l'huile nécessaire et l'autre est perdu. Les Millérites ont vécu précisément cette expérience, et ce faisant, ils ont manifesté une compréhension à la fois d'une ligne de prophétie externe et d'une ligne interne. En proclamant le message du deuxième ange en identifiant les églises protestantes déchues comme les filles de Babylone, ils annonçaient un message qui était extérieur à leur expérience. Pour proclamer le message du cri de minuit, ils devaient d'abord se voir comme les vierges qui avaient été dans un temps d'attente. Au verset 11 de Daniel 11 et d'Apocalypse 11, les messages internes et externes ont été dévoilés comme vérité présente à partir de juillet 2023. Dans le chapitre 1 de Daniel, la deuxième épreuve, de nature visuelle, eut lieu lorsqu'on constata que Daniel et les trois fidèles avaient une apparence plus belle et plus entière que ceux qui mangeaient la nourriture babylonienne. Au chapitre 2, l'épreuve visuelle est présentée comme une épreuve prophétique qui exige d'interpréter correctement un message caché qui se révèle finalement être l'image des royaumes de la prophétie biblique. Les chapitres 1, 2 et 3 de Daniel représentent le premier, le deuxième et le troisième ange d'Apocalypse 14. Le second ange de l'Apocalypse 14 traite du message externe de l'histoire millérite. Et le chapitre 2 de Daniel traite également de la ligne externe avec l'image des bêtes de l'histoire prophétique. L'épreuve visuelle du chapitre 1 était fondée sur Daniel et les trois fidèles, et constitue donc la ligne interne. Les lignes prophétiques externes et internes, représentées par le parallèle entre les chapitres 1 à 3 de Daniel et les trois anges de l'Apocalypse 14, apportent un autre témoignage au message du second ange, tel qu'accompli par les Millérites. Les Millérites ont proclamé à la fois un message externe et un message interne lorsqu'ils ont accompli la proclamation du cri de minuit. Leur message externe était le deuxième ange d'Apocalypse 14, liant ainsi directement le message millérite au deuxième ange et à l'image de Daniel 2. L'image représente les royaumes extérieurs de la prophétie biblique, depuis Babylone littérale jusqu'à Babylone moderne, qui prend fin à la clôture du temps de probation humaine. Les Millérites se rattachent de nouveau au message externe de Babylone. L'épreuve visuelle de Daniel était fondée sur le régime alimentaire qu'il a choisi d'adopter, et le premier ange d'Apocalypse 10, qui est descendu et a posé un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avait un petit livre ouvert que Jean a reçu l'ordre de manger. Le premier ange est représenté par l'appétit et est suivi d'une épreuve visuelle. L'épreuve visuelle comprend une ligne de vérité interne et une ligne de vérité externe. Le verset 11 de Daniel 11, en parallèle avec le verset 11 d'Apocalypse 11, représente la double épreuve visuelle. Elle se conclut par l'épreuve décisive, lorsque les vierges manifestent si elles ont de l'huile ou non. Cette manifestation a lieu juste avant la clôture du temps de probation au moment de la loi du dimanche aux États-Unis. La clôture du temps de probation au moment de la loi du dimanche a été préfigurée par le 22 octobre 1844. Juste avant le 22 octobre 1844, le 17 août 1844, les Millérites ont porté le message comme un raz-de-marée sur la côte est des États-Unis.
90,089 marks the time to the fin, lorsque le livre de Daniel a été décelé, and lorsque le livre de Daniel a décelé, et il y a toujours un accroissement de the connexions qui produit do class dot a ratter. 90,104 at the promi of say three shaking of Sekalamet, come typifies par l'arrivée du premier ange on 1729. Lorsque le premier ange est descendu, le 11 août 1800 caris, et le typify l'ange d'Apocalypse dividena descendant le 11 septembre. The premier deception de l'histoire Millérites a marqué l'arrivée du douzième ange, et it typifies the DSM 1 Jusace and Tiaramach, which I dion lukind ye. And the DASM is a gulak apronishim, what a capital. Lars they continue to see me miss, this DAS misagonist don a war danger vosum, or the galloes, illiger gambin, so back parmet, a kappa element, question mark, ilay it plenum eveye, larskala reading of Apocalypse, DSMs 1, and terre on a gadatara on ut del mimiteo. Lorsque la nuit jet éveillé en juillet 2023, lorsque the message de cri a minuit a communica. Coming at tie 2, the maidy first jound a preuve, and what the was paid.
La période d'attente prit fin pour les Millérites à Exeter. Tout comme elle prit fin pour la famille de Lazare lorsque Jésus ressuscita Lazare, acte couronnant du ministère du Christ, faisant de Lazare le sceau de son ministère. La résurrection de Lazare marque la fin de la période d'attente et le scellement du peuple de Dieu. L'entrée triomphale qui suivit préfigura la proclamation du message du cri de minuit dans l'histoire millérite. Le thème du verset 11 du chapitre 11 de Daniel est la montée et la chute du roi du Sud, dès lequel mène à la bataille de Panium au verset 13 à 15. Ces versets sont la pierre de touche où le sceau est placé sur le front des hommes et des femmes qui doivent être érigés en étendard au verset 16. Le verset 15 s'est accompli lors de la bataille de Panium, qui correspond à la visite du Christ à Césarée de Philippe. Là, à Césarée de Philippe, le Christ changea le nom de Simon Barjona en Pierre, marquant le scellement des 144 000. À partir de ce moment, la lumière de la croix imminente fut dévoilée aux disciples. Quand le Christ changea le nom de Simon en Pierre, juste avant la croix, cela s'alignait avec les preuves décisives d'Excister de Lazare, menant à l'entrée triomphale à Jérusalem. La réunion de Caen d'Excister du 12 au 17 août représente l'établissement définitif dans la vérité avant l'ébranlement, à savoir le tremblement de terre de la loi du dimanche, dans les chapitres 11 de Daniel et de l'Apocalypse.
L'œuvre à Battle Creek est du même ordre. Les dirigeants du sanatorium se sont mêlés aux non-croyants, les admettant plus ou moins à leur conseil. Mais c'est comme se mettre à l'œuvre les yeux fermés. Il manque de discernement pour voir ce qui peut s'abattre sur nous à tout moment. Il y a un esprit de désespoir, de guerre et d'effusion de sang, et cet esprit ira croissant jusqu'à la toute fin des temps. Dès que le peuple de Dieu sera scellé au front, ce n'est pas un sceau ni une marque qui puisse se voir, mais un enracinant dans la vérité, à la fois intellectuelle et spirituelle, de sorte qu'il ne puisse être ébranlé. Dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour l'ébranlement, il viendra. En effet, il a déjà commencé. Les jugements de Dieu sont maintenant sur le pays pour nous avertir, afin que nous sachions ce qui vient. Manuscript Release, volume 10, 252.
Le scellement des 144 000 a été représenté par le camp meeting d'Exeter, par le fait que le Christ a changé le nom de Simon en Pierre et par la résurrection de Lazare. Cette résurrection préfigure la résurrection des deux témoins dans l'Apocalypse, chapitre 11. Les versets 10 à 16 représentent l'histoire cachée du verset 40. Le décèlement de l'histoire cachée du verset 40 a commencé au sein de l'accomplissement historique du verset 11 et de la guerre en Ukraine. Depuis juillet 2023, cette histoire cachée est en cours de décèlement par le lion de la tribu de Juda. Lorsque les candidats à faire partie des 144 000 ont été ressuscités au verset 11 du chapitre 11 de l'Apocalypse, l'épreuve prophétique visuelle qui doit être réussie avant que le temps de probation ne se ferme au moment de la loi du dimanche, que Sir White identifie comme l'épreuve de l'image de la bête, a commencé.
Le Seigneur m'a montré clairement que l'image de la bête sera formée avant la fin du temps de grâce, car elle doit constituer la grande épreuve pour le peuple de Dieu, par laquelle se décidera leur destinée éternelle. Votre position est un tel fatras d'incohérence que bien peu seront trompés. Dans Apocalypse 13, ce sujet est exposé clairement. Apocalypse 13, 11, 17, cité. C'est l'épreuve que le peuple de Dieu doit subir avant d'être scellé. Tous ceux qui auront prouvé leur loyauté envers Dieu, en observant sa loi et en refusant d'accepter un faux sabbat, se rangeront sous la bannière du Seigneur Dieu Jéhovah et recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux qui renoncent à la vérité d'origine céleste et acceptent le dimanche comme sabbat, recevront la marque de la bête. Manuscript Releases, Phaptos, 15.
La ligne externe de la prophétie est dévoilée dans le contexte de Daniel 11, 11, et la ligne interne est dévoilée dans Apocalypse 11, 11. La ligne externe indique comment l'image de la bête, qui représente la combinaison de l'Église et de l'État, avec l'Église contrôlant la relation, se forme pendant la période du jugement des vivants. La ligne interne indique comment l'image du Christ, qui représente une combinaison de la divinité et de l'humanité, se forme pendant le jugement des vivants. Le mouvement de réforme du troisième ange et des 144 000 a commencé au temps de la fin, en 1989, comme représenté dans le verset 10 de Daniel 11. L'accomplissement parfait du chapitre 12 de Daniel a alors commencé.
Et il dit « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. » Daniel 12, 9, 10.
Le verset 10 du chapitre 11 marque le début d'un processus de purification, que le premier ange présente comme la crainte de Dieu. Les versets 11 et 12 indiquent où les 144 000 sont rendus blancs. Le livre de Zacharie identifie cette expérience.
« Et il me montra Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, ô Satan. Oui, que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te réprime. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était vêtu de vêtements souillés et se tenait devant l'ange. Il prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements souillés. » Puis il lui dit, « Vois, j'ai fait passer de toi ton iniquité, et je te revêtirai d'autres vêtements. » Et je dis, « Qu'on mette une mitre pure sur sa tête. » On mit donc une mitre pure sur sa tête, et on le revêtit de vêtements. Et l'ange de l'Éternel se tenait là. Zacharie 3:1-5.
Ce passage s'accomplit dans l'œuvre finale du Christ en tant que grand prêtre et représente le scellement des 144 000.
La vision de Zacharie concernant Josué et l'ange s'applique avec une force particulière à l'expérience du peuple de Dieu dans les scènes finales du grand jour des expiations. L'Église, du reste, sera alors soumise à de grandes épreuves et à une profonde détresse. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus sentiront la colère du dragon et de ses armées. Satan compte le monde hormis ses sujets. Il a pris le contrôle même de beaucoup de ceux qui se réclament du christianisme. Mais voici un petit groupe qui résiste à sa suprématie. S'il pouvait les effacer de la terre, son triomphe serait complet. De même qu'il a poussé les nations païennes à détruire Israël, de même, dans un avenir proche, il soulèvera les puissances impies de la terre pour détruire le peuple de Dieu. On exigera des hommes qu'ils rendent obéissance à des édits humains en violation de la loi divine. Prophètes et Rois, 587.
Les scènes finales du grand jour des expiations désignent d'abord le scellement des 144 000, puis le scellement des autres enfants de Dieu qui sont actuellement à Babylone.
Alors que le peuple de Dieu humilie son âme devant lui, implorant la pureté du cœur, l'ordre est donné. Ôtez les vêtements sales. Et ces paroles encourageantes sont prononcées. Voici, j'ai fait passer de toi ton iniquité, et je te revêtirai d'habits de fête. Zacharie 3:4. La robe sans tache de la justice du Christ est placée sur les enfants de Dieu éprouvés, tentés et fidèles. Le reste méprisé est revêtu d'un apparat glorieux, pour ne plus jamais être souillé par les corruptions du monde. Leurs noms sont conservés dans le livre de vie de l'agneau, inscrit parmi les fidèles de tous les âges. Ils ont résisté aux ruses du séducteur. Ils n'ont pas été détournés de leur loyauté par le rugissement du dragon. Désormais, ils sont à jamais à l'abri des machinations du tentateur. Leurs péchés sont transférés à l'auteur du péché. Un beau turban est posé sur leur tête. Pendant que cet état faisait valoir ses accusations, des anges saints, invisibles, allaient et venaient, apposant sur les fidèles le sceau du Dieu vivant. Ce sont ceux qui se tiennent sur le mont Sion, avec l'agneau, ayant le nom du Père écrit sur leur front. Ils chantent le cantique nouveau devant le trône, ce cantique que nul ne peut apprendre, sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont sans défaut devant le trône de Dieu. Apocalypse 14:4-5. Voici maintenant l'accomplissement complet des paroles de l'ange. Écoute maintenant, ô Josué souverain sacrificateur, toi et tes compagnons assis devant toi, car ce sont des hommes qui servent de signes. Car, voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Zacharie 3:8. Le Christ est révélé comme le Rédempteur et le Libérateur de son peuple. Maintenant, en effet, le reste est véritablement un sujet d'étonnement, alors que les larmes et l'humiliation de leur pèlerinage cèdent la place à la joie et à l'honneur en présence de Dieu et de l'agneau. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera beau et glorieux, et le fruit de la terre sera excellent et agréable pour les rescapés d'Israël. Et il arrivera que celui qui sera resté en Sion et celui qui demeurera à Jérusalem sera appelé saint, même tous ceux qui sont inscrits parmi les vivants à Jérusalem. Ésaïe 4:2-3. Prophètes et Rois, 591-592.
Le scellement est la deuxième étape du purifié, blanchi et éprouvé de Daniel. Les versets 11 et 12 identifient l'ultime ascension et chute de la Russie, le roi du Sud prophétique. Cela précède la bataille de Panium au verset 13 à 15. Lorsque le rattaché à les 144 000 voit leurs vêtements souillés ôtés par le Christ dans les scènes finales du grand jour des expiations, ils reçoivent une tiare pure, ce qui correspond chez Daniel à sa promotion au rang de troisième dirigeant, ainsi qu'à la robe écarlate et à la chaîne d'or. C'est aussi le don de la chaîne d'or à Joseph, sa promotion au rang de second et le don de l'anneau du roi. L'anneau au noroari représente le sceau royal dont un souverain se servait pour apposer son sceau royal sur ses lois. Darius utilisa son sceau pour sceller la fosse où Daniel fut placé parmi les lions.
Alors le roi ordonna, et l'on amena Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Ton Dieu, que tu sers continuellement, te délivrera. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son propre sceau et du sceau de ses seigneurs, afin que la décision ne fût pas changée à l'égard de Daniel. Daniel 6, 16, 17.
Le mot hébreu traduit par « signet » est H5424 dans Strong's, et il est dérivé d'un mot racine correspondant à H5423. Il désigne une bague sceau gravée. Josué devant l'ange, Daniel dans la fosse au lion, Joseph devant Pharaon, représente le scellement des 144 000, ce qui constitue la deuxième épreuve dans Daniel 12, où ceux qui ont été purifiés sont ensuite blanchis avant d'être éprouvés. Ces lignes sont aussi représentées par Zorobabel, le fils de Shealtiel.
En ce jour-là, dit l'Éternel, des armées, je te prendrai, ô Zorobabel, mon serviteur, le fils de Shealtiel, dit l'Éternel, et je ferai de toi un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Haggai 2, 23.
Zorobabel signifie descendant de Babylone, et son père était Shealtiel, dont le nom signifie demander à Dieu. Zorobabel représente le message du deuxième ange qui appelle la descendance de Babylone à rejoindre le troupeau de Dieu dans les derniers jours. La dimension de la prière est associée aux 144 000 qui appellent les derniers descendants de Babylone à en sortir, car ce réveil ne se produit que par la prière.
Au réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Chercher cela devrait être notre première œuvre. Il faut des efforts sérieux pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non pas parce que Dieu n'est pas disposé à nous accorder sa bénédiction, mais parce que nous ne sommes pas préparés à la recevoir. Notre Père Céleste est plus disposé à donner son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent que ne le sont les parents terrestres à donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais c'est à nous, par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente, de remplir les conditions auxquelles Dieu a promis de nous accorder sa bénédiction. Un réveil ne doit être attendu qu'en réponse à la prière. Tant que le peuple est si dépourvu du Saint-Esprit de Dieu, il ne peut apprécier la prédication de la parole. Mais lorsque la puissance de l'Esprit touche leur cœur, les discours prononcés ne seront pas sans effet. Guidés par les enseignements de la parole de Dieu, avec la manifestation de son Esprit, dans l'exercice saine d'une saine prudence, ceux qui assistent à nos réunions acquerront une précieuse expérience et, rentrant chez eux, seront préparés à exercer une influence salutaire. Les anciens porte-étendards savaient ce que c'était que de lutter avec Dieu dans la prière et de goûter l'effusion de son esprit. Mais ceux-ci se retirent de la scène de l'action. Et qui se lève pour occuper leur place? Qu'en est-il de la génération montante? Sont-ils convertis à Dieu? Sommes-nous éveillés à l'œuvre qui s'accomplit dans le sanctuaire céleste ou attendons-nous qu'une puissance irrésistible descende sur l'Église avant de nous réveiller? Espérons-nous voir toute l'Église ravivée? Ce temps ne viendra jamais. Il y a dans l'Église des personnes qui ne sont pas converties et qui ne s'uniront pas dans une prière fervente et persévérante. Nous devons entreprendre cette œuvre individuellement. Nous devons prier davantage et parler moins. L'iniquité abonde et il faut enseigner au peuple à ne pas se contenter d'une forme de piété dépourvue d'esprit et de puissance. Si nous nous appliquons à sonder nos propres cœurs, à abandonner nos péchés et à corriger nos mauvaises tendances, nos âmes ne s'enfleront pas d'orgueil. Nous nous déférons de nous-mêmes, avec la conscience permanente que notre capacité vient de Dieu. Message choisi, livre 1, 131, 922.
Le jalon de la prière est présenté dans Daniel, qui décrit une prière pour comprendre le message externe au chapitre 2 et aussi une prière pour accomplir le message interne représenté au chapitre 9. Zorobabel et son père, Shealtiel, représente le scellement des 144 000 lors du second test, qui est le test visuel de l'image de la bête, lequel est aussi le test interne représenté dans Apocalypse chapitre 11, verset 11, ainsi que le test externe représenté dans Daniel chapitre 11, verset 11. Nous continuerons à aborder le verset 11 dans le prochain article.